Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h sur RCN 90.7. Et aujourd'hui, nous allons parler du logement. Comment se loger aujourd'hui dans une situation de crise? Quelles sont les alternatives qu'il y a pour les personnes qui souhaitent se loger? Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Lou Di Pellino, qui est brand manager chez Roomlala. Bonjour Lou.
Bonjour.
Je reçois aussi sur le plateau Sylvie de Botmel, qui est conseillère juriste pour la deal 54 et 55. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et dans la semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Dubois-Pau, qui est président de l'association La Dalle, donc l'association de droit au logement. Et Jean-Pierre a répondu à quelques questions qu'on va écouter tout de suite.
Alors, le DAL est une association qui a été créée dans les années 90 sur Nancy et à peu près la même période au niveau national, qui défend les personnes mal logées, sans logement ou menacées d'expulsion. Alors, souvent, les associations qui existent sont des associations de locataires qui abordent la question des rapports locatifs entre le propriétaire et le locataire. Par contre, il n'y avait pas de structure qui défendait les mal logés, ceux qui n'accèdent pas à un logement. Et l'essentiel de notre activité est sur l'accès au logement pour les personnes qui sont soit à la rue, soit menacées d'expulsion, soit mal logées dans des taudis, dans des habitats dégradés.
Et donc, vous intervenez pas mal en Lorraine, sur Nancy principalement, hein,
c'est... Essentiellement sur l'agglomération nancyenne, mais on étend sur les Vosges, l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, un petit peu sur la Meuse aussi. Alors aujourd'hui, le logement, c'est le premier budget du ménage. Avant l'alimentation, hein, quand on compte le loyer, les charges, l'électricité, le gaz et l'assurance, ça représente plus de 20% des budgets du ménage. Un ménage consomme plus en logement qu'en alimentation pour se nourrir. Donc ça, c'est quand même une évolution importante ces dernières années. Et malheureusement, la hausse des prix de l'énergie ne vont faire qu'aggraver cette situation. Bon, en Nancy aussi, le gros problème, ce sont les démolitions. Dans le cas du renouvellement urbain, de nombreux logements, et ici au Haut-du-Lièvre, puisqu'on est au Haut-du-Lièvre actuellement, connaît bien ce problème. Des logements qui n'étaient pas tous de mauvaise qualité ont été détruits, et le temps qu'ils soient reconstruits, le marché du logement se tend. Aujourd'hui, pour un logement HLM attribué, il y a 3 demandes qui restent sans réponse. Aujourd'hui, le délai d'attribution d'un logement HLM est de plus de 10 mois. Et aujourd'hui, un tiers des demandes, en ce qui sont en stock dans les dossiers HLM, ont plus d'un an. Donc on voit qu'il y a une tension du marché locatif et qui, bien évidemment, touche principalement les personnes aux plus faibles ressources. Ben, cela conduit, dans le secteur privé, à une hausse des loyers. Et dans le secteur HLM, à ce que les ménages qui souhaitent améliorer leur cadre de vie, qui souhaitent une mutation pour changer de quartier, ont de plus en plus de mal à accéder au logement qu'ils souhaitent.
Et vous, donc, concrètement, comment vous agissez pour accompagner les personnes qui viennent vous solliciter ?
Alors, ça dépend à la fois de la demande de la personne et puis de son degré d'autonomie. Donc quand on rencontre les personnes, on essaye de faire le point sur leur situation. Sont-ils actuellement logés? S'ils sont logés, est-ce que le logement correspond à leurs besoins ou pas? S'ils ne sont pas logés, où sont-ils? Sont-ils à la rue? Dorment-ils dans la voiture? Sont-ils chez les amis, à droite, à gauche? Donc une fois qu'on a fait le point sur leur situation, on fait aussi le point sur leur capacité, sur leur autonomie. Est-ce qu'ils sont capables, une fois qu'ils sont informés, de se débrouiller tout seuls, ou est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés pour constituer des dossiers, etc. Donc, selon leur demande, selon leur autonomie, on va prendre contact avec les bailleurs, hein, donc essentiellement avec les organismes HLM, pour essayer de trouver une réponse à l'amiable. Et quand on ne trouve pas de réponse à l'amiable, ben on engage des procédures, en particulier l'une des procédures qui est la procédure d'ALO, qui a pour objectif d'identifier les ménages dont le relogement est à la fois prioritaire et urgent pour accélérer leur relogement. Sur Nancy, on a 15 000 logements, enfin sur l'agglomération nancéenne, on a 15 000 logements vacants. Alors, il faut faire le tri entre pourquoi la vacance, parce que ça peut être des vacances provisoires, ça peut être aussi des logements qui ne sont pas forcément en bon état, mais on est convaincu que sur la majorité de ces 15 000 logements pourraient être mis sur le marché. Sauf qu'il y a des spéculateurs, il y a des gens qui préfèrent ne pas mettre le logement sur le marché pour faire monter le prix des loyers, ou éventuellement qui attendent la bonne fenêtre pour revendre au prix le plus fort possible le logement en essayant de faire des bénéfices. C'est-à-dire que le logement est devenu un outil de spéculation comme d'autres spéculent sur de l'or ou sur divers produits. On constate quand même que ni les services de l'État, ni les services de la métropole n'envisagent des réquisitions. Les logements vacants en bon état devraient pouvoir être mis sur le marché, et si le propriétaire ne veut pas, le préfet a la possibilité de réquisitionner des logements. Et ça, malheureusement, le préfet de Meurthe-et-Moselle, comme malheureusement beaucoup de préfets en France, se refusent à réquisitionner les logements. La première proposition, la première solution, c'est de construire. C'est déjà d'arrêter de démolir, parce qu'on a on démolit trop par rapport à l'existence d'une demande, et surtout on ne construit pas assez. Et quand on construit, il faut construire avec des loyers de sortie qui soient compatibles avec les ressources des ménages, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde les demandeurs d'un logement social, les deux tiers ont des ressources très modestes, ont des ressources, sont des ménages défavorisés, en dessous du seuil de pauvreté. Et seulement un tiers des logements HLM construits sont destinés à ces publics-là. Donc ça, les ménages défavorisés représentent deux tiers de la demande et un tiers de l'offre. Nécessairement, ça coince. Et les propositions du gouvernement actuel, enfin, futur ex-gouvernement, on va dire aujourd'hui, était de prioriser le logement de catégories supérieures, donc pour les catégories moyennes, alors que la tension, elle est sur les catégories défavorisées. On voit bien qu'il y a un écart phénoménal entre le besoin de logement tel qu'il est ressenti aujourd'hui et la réponse telle qu'elle est mise en œuvre par le gouvernement. Accueillir des personnes à la rue, à la maison, bon, ça se fait, certains le font, tant mieux. Il y a une association qui est un toit pour les migrants qui développe ces activités-là pour accueillir des ménages en situation irrégulière, et tant mieux qu'ils existent. Mais c'est des effets de niche, ça règle une situation, ça règle deux situations, ça ne règle pas le problème dans sa globalité. La bonne réponse, c'est à la fois, on l'a déjà dit, c'est produire du logement et c'est réquisitionner les logements.
Aujourd'hui, si vous aviez, au nom de l'association, un message à faire passer aux autorités, d'une part, et peut-être un deuxième message aux propriétaires qui nous écoutent, ce serait lequel ?
Aux autorités, c'est construire, 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 et construire, j'insiste, avec des loyers de sortie qui soient faibles, qui soient compatibles avec les ressources des ménages. Avec les propriétaires, c'est mettez sur le marché tous les logements dont vous disposez, et entre un logement vide et un logement loué avec un petit loyer, le logement avec le petit loyer rapporte plus que le logement vide. Donc il faut mettre sur le marché tous les logements qui sont vacants.
mettre tous les logements sur le marché. Ce sont les recommandations de Jean-Pierre Dubois Beau, président de l'association de droit au logement. Sylvie Le Botmel, vous avez souhaité répondre aussi à quelques questions de nos auditeurs avant que je donne la parole à Lou Di Pellino qui va présenter Roumlala. Jean-Pierre parlait du fait que il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de difficulté financière pour se loger. Ces personnes-là, parfois, ont des retards de loyer. Elles peuvent craindre l'expulsion. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ?
Bah, déjà, si vous voulez prendre la situation le plus en amont possible pour éviter que la dette ne soit trop importante, et si on en est encore, si vous voulez, au début de l'impayé, il y aura éventuellement possibilité d'obtenir des délais de paiement en les demandant au bailleur, sous réserve, bien sûr, que ça soit... Que ça soit possible dans la mesure où des gens peuvent aussi avoir des problèmes parce que ils ont eu un accident de la vie et soit ils ont perdu leur emploi, soit ils se sont séparés et il y a une perte de revenus qui fait qu'ils pourront certainement pas garder le logement en question.
Alors, sur cette perte de revenus, elle concerne des personnes qui sont déjà en activité, des travailleurs pauvres.
Alors, il y a les travailleurs pauvres, il y a les travailleurs qui perdent leur emploi, il y a les familles monoparentales. Et puis, il faut savoir, si vous voulez, que les travailleurs pauvres peuvent éventuellement se rapprocher d'Action Logement. Parce que Action Logement va pouvoir les aider en leur accordant des aides financières pour des situations d'impayés. Bon, sous réserve que ça soit pas trop catastrophique, parce que si c'est voué à l'échec, ça ne donnera rien. Mais il y a possibilité de voir avec Action Logement, donc pour les salariés du secteur privé. Et pour les personnes, par exemple, qui ne travaillent pas ou qui ont un revenu peu élevé, il y a possibilité éventuellement d'actionner le FSL, qui est le Fonds de solidarité pour le logement, pour pouvoir obtenir soit un prêt pour la dette, soit effectivement une prime, on va dire, qui ne sera pas à rembourser cette fois-ci. Mais c'est pas un droit. Donc à partir de là, c'est une possibilité. À ce moment-là, il faut pas hésiter à contacter les travailleurs sociaux de la MDS dont les personnes dépendent. Il suffit de taper Maison des Solidarités sur Internet. Et à ce moment-là, les gens auront directement, si vous voulez, les coordonnées de leur travailleur social.
Alors, donc, pour les ménages les plus défavorisés ou les plus pauvres, il y a aussi d'autres solutions. On parlait de Roumlala, pardon. Et là, je me tourne vers Lou. Brièvement, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Roumlala, comment ça fonctionne ? Alors, parce qu'il y a une partie locataire et il y a une partie hébergeur.
Bien sûr, oui, effectivement. Donc en fait, Roumlala, c'est une plateforme de réservation de chambres chez l'habitant. Donc elle permet de faire des économies tout en créant du lien entre les locataires et les hébergeurs, donc les propriétaires. En fait, d'un côté, nous, on va aider les étudiants, les vacanciers et les professionnels en déplacement à se loger plus facilement un peu partout dans le monde. On est présent un peu partout. Et le tout en faisant des économies. De l'autre côté, on accompagne et on aide les propriétaires qui souhaitent rentabiliser les chambres vides de leur logement. Donc on propose vraiment une solution qui va être conviviale pour trouver un logement abordable. Parce que vous allez voir, on est à des tarifs bien plus économiques que des logements entiers, des hôtels, enfin voilà, toutes ces solutions qu'on peut avoir et qu'on peut connaître davantage.
Parce que bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs plateformes, je ne vais pas les citer, mais des plateformes qui sont connues pour la location de logements. Vous avez évoqué l'aspect... économie, est-ce qu'il y a d'autres avantages de passer par Roumlala ?
Oui, alors déjà le fait d'aller chez l'habitant, ça apporte vraiment un côté donc convivial comme je le disais, et c'est aussi un côté sécurisant. Par exemple, pour les parents qui vont laisser leurs enfants partir à l'étranger pour un semestre, pour un stage, etc., il y a toujours ce côté un petit peu comme si on allait au sein d'une nouvelle famille qui va nous accueillir, et donc il va y avoir vraiment des liens qui vont se créer, une certaine confiance qui va être accordée donc au propriétaire avec lequel on va pouvoir échanger. Nous, on a beaucoup ce type justement de réservations qui sont faites par les parents pour leurs enfants qui vont aller à l'étranger ou même tout simplement en France, mais pour un stage dans un autre département, par exemple. Donc ça, c'est quand même hyper important, cet aspect-là, cet aspect sécurité. Et il y a aussi, donc oui, effectivement, comme vous le disiez plutôt, le côté plus abordable que les autres plateformes. Nous, en fait, on se situe à peu près à 12 euros la nuit en moyenne. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes. Mais nous, en fait, c'est vraiment aussi le côté pratique et convivial de la chambre chez l'habitant qui est déjà meublée, qui est décorée, qui est pratique parce qu'on a juste à déposer ses affaires et tout est à disposition. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez quand même parfois accès à plein d'espaces communs qui vont être bien plus grands que dans des petits studios, par exemple, dans les grandes villes ou dans les villes étudiantes, et à un coût vraiment plus abordable.
Surtout en ce moment, en période pré-JO, je pense que c'est un message qui va être entendu. Nancy est une ville étudiante. On a reçu ici, nous, des étudiants qui évoquaient là aussi leurs difficultés à joindre les deux bouts, leurs difficultés parfois à payer un loyer. Est-ce que vous, de votre constat, les étudiants, ça fait partie du public qui est le plus majoritaire parmi ceux qui viennent vous voir?
Oui, tout à fait. Nous, on a vraiment une grande majorité d'étudiants qui veulent se loger pendant leurs études, comme je disais, que ce soit des stages, des échanges Erasmus, etc. On a quand même aussi pas mal de professionnels en déplacement temporaire, on a des saisonniers, on a un peu aussi de vacanciers ou d'autres déplacements, mais c'est vrai que la grande majorité de nous, de ce qui se fait sur Roumlala, c'est quand même beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche de ce type de logement moins cher. Et en plus, avec la crise du logement étudiant qu'on a connue et qu'on connaît à chaque rentrée, c'est vrai que c'est quand même une solution qui revient. Nous, on recherche aussi beaucoup de témoignages justement auprès de nos membres, et j'ai eu, par exemple, l'année dernière, une maman qui me parlait de sa fille qui n'avait pas pu faire les études qu'elle souhaitait parce qu'elle n'avait pas trouvé de logement dans son budget dans l'université qu'elle souhaitait faire. Et en fait, elle a dû changer carrément de cursus universitaire. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se dire qu'il y a des étudiants qui, n'ayant pas en fait trouvé de logement dans la ville qu'ils cherchaient, ils doivent carrément changer de voie. Donc c'est assez compliqué, et du coup ils se tournent souvent sur des plateformes comme la nôtre pour trouver des solutions un peu plus économiques qui leur permettent justement de poursuivre leurs études.
Toujours sur ce thème de précarité, on parlait de précarité financière, il y a aussi tout ce qui est insécurité, insalubrité. Est-ce que vous avez un œil là-dessus?
Bien sûr. Alors nous, c'est justement quelque chose qui revient beaucoup quand on demande aussi à nos utilisateurs pourquoi ils aiment utiliser notre plateforme. C'est qu'il y a vraiment, nous, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, c'est la sécurité des transactions et des échanges. L'idée, c'est que le locataire puisse réserver en ligne et donc que nous, Roumlala, on soit un intermédiaire et un tiers de confiance. Donc en fait, le paiement, il est sécurisé, on intervient en cas de litige. C'est-à-dire que le locataire, en fait, il va payer sur notre site. Nous, les fonds, ils vont être bloqués de notre côté jusqu'au lendemain de son arrivée sur place à 13h. Il a tout ce laps de temps pour déclarer un litige. Si aucun litige n'a été déclaré, on verse au propriétaire son loyer. Et pour les réservations de plusieurs mois, il y a un échéancier qui est mis en place. L'hébergeur reçoit son virement de Roumlala tous les mois. Et on a aussi un système donc de modération des messages pour éviter tous les échanges qui pourraient être négatifs, grossiers ou autres. Et on vérifie bien évidemment tous les profils de nos membres. On leur demande de procéder à une vérification de leur numéro de téléphone, leur pièce d'identité. Et bien évidemment, on modère tous les messages, les photos qui sont postées sur notre site et les annonces. Et bien évidemment, il peut y avoir parfois des choses qui passent à travers, on va dire, les mailles du filet. Et on a toujours la possibilité justement de signaler une annonce en tant que locataire. Si on recherche quelque chose sur le site et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut nous contacter pour nous signaler toute potentielle fraude, arnaque, etc. Voilà.
Juste pour terminer sur cette question de sécurité, petite parenthèse, donc vous disiez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en mal de logement, tout ça, mais du côté des hébergeurs, c'est quoi les profils des personnes aujourd'hui qui acceptent d'héberger ces jeunes-là en majorité?
Ouais, alors nous, nos hébergeurs, donc on a environ 65% de femmes et 35% d'hommes. On a beaucoup de particuliers qui ont une chambre vide dans leur logement. Souvent, c'est des familles dont un des enfants ou plusieurs enfants sont partis. Et donc, il reste une chambre vide qui est à disposition. On a beaucoup de retraités également. Et après, il peut arriver aussi qu'on ait des jeunes actifs qui ont une chambre supplémentaire dans leur appartement et qui ont envie d'avoir un peu de compagnie. Mais souvent, c'est quand même, voilà, on a à peu près 22% d'employés, 13% de retraités. Et puis voilà, en termes d'âge, on a quand même 20% de plus de 64 ans, 42% de 49-64 ans, 20% de 34-49, et puis après, c'est plutôt une minorité de personnes plus jeunes, donc 7% de 24 à 34 ans.
Sylvie, le botmel, que faire si mon logement est insalubre et que mon propriétaire ne fait rien pour l'améliorer?
Alors, les gens mélangent un peu insalubrité et non-décence du logement. L'insalubrité, c'est vraiment une procédure, on va dire, de police, alors que la non-décence, c'est un problème de droit privé entre le locataire et le propriétaire. Donc, quand le logement est non-décent, par exemple, voire même insalubre, on conseille aux gens de faire le signalement sur une plateforme numérique qui s'appelle Histologue. Et Histologue est visible en fait par tous les partenaires du pôle de l'habitat non décent et indigne. Et à ce moment-là, pour les gens qui sont notamment, alors pour un logement non décent, les gens qui sont notamment allocataires allocation logement, ces gens-là, si vous voulez, vont bénéficier d'un système qui va consister, après que Solia, le CAL, qui sera mandaté par la CAF, pour venir constater que le logement n'est pas décent. Et à ce moment-là, une fois ce constat établi, il y aura conservation de l'allocation logement par la CAF jusqu'à ce que le propriétaire fasse les travaux, on va dire, pour remédier à l'indécence. Et à ce moment-là, il pourra récupérer de façon rétroactive l'allocation logement qui aura été conservée par la CAF.
Je vous donne un exemple qui a été pris pour nos auditeurs. Je suis actuellement sans domicile fixe. Quelles ressources sont disponibles pour m'aider à trouver un logement stable?
Alors, un logement stable, si vous voulez, ça va être un petit peu compliqué. Pour ça, il faut faire appel au service d'urgence, au centre d'hébergement d'urgence, si vous voulez, qui va offrir des solutions de logement rapide et instantané. Et en fait, ça va permettre notamment à la personne qui est SDF d'avoir un habitat de nuit et un couvert. Mais il faut que ces personnes soient en situation de détresse, donc ça va concerner des cas extrêmes. Mais bon, parler de logement, on va dire pérenne, ça va être un peu compliqué au départ, hein, pour quelqu'un qui est SDF. On va pas commencer, si vous voulez, pas. Puis d'abord, il pourra pas payer son loyer. Donc et il va falloir, si vous voulez, qu'ils s'habituent à revivre en communauté. Donc, en fait, ces centres d'hébergement d'urgence peuvent être, si vous voulez, le lien au départ.
Alors, tout à l'heure, on a entendu dans l'interview avec Jean-Pierre Dubois-Pau qui nous disait qu'il faut à peu près 10 mois en moyenne pour accéder à un logement HLM, qu'un tiers des demandes sont sur les listes d'attente depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, quelles sont les démarches pour obtenir un logement social? Et vous parliez, vous disiez que si on est SDF, on n'aura pas tout de suite forcément un logement stable. Mais quels sont les critères de priorité alors?
Alors, pour faire une demande de logement social, il faut faire la demande sur le site par le biais d'un formulaire CERFA. C'est le formulaire demande de logement social. Alors, on peut se faire aider par un travailleur social pour effectivement remplir ce formulaire. Alors, les personnes qui ont droit au logement HLM sont des personnes qui ont des revenus inférieurs à certains plafonds. Et ensuite, vous avez des critères de priorité dans chaque département, en accord avec le préfet, à partir des critères généraux qui sont réglementés. Et en fait, sont notamment prioritaires pour l'attribution d'un logement social, par exemple, les personnes en situation de handicap, les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement, des personnes hébergées. Donc, par exemple, des personnes qui sont hébergées dans un, dans un logement, par exemple, de transition, dans une résidence sociale. Les personnes qui vont reprendre une activité avec, après une période de chômage de longue durée. Les personnes victimes de violences au sein du couple. Enfin, il y en a encore d'autres. Hein, les personnes dépourvues de logement, les personnes menacées d'expulsion. Et là, on va revenir au DALO dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, si vous faites une demande de logement social, au bout d'un an, si vous n'avez pas une offre, il faut refaire cette demande de logement social, sinon elle va tomber. Mmh. Et au bout de 16 mois, en Meurthe-et-Moselle, les gens, à ce moment-là, qui ont fait une demande, vont être considérés comme prioritaires DALO. Donc, ils pourront faire une demande de DALO. Et cette demande de DALO, elle est aussi ouverte aux gens qui sont dépourvus de logement. Donc, c'est vrai que si vous voulez, sont visées les personnes sans domicile fixe, hein, parce qu'elles sont dépourvues de logement. Les personnes menacées d'expulsion sans relogement, les personnes qui sont hébergées dans un établissement, un logement foyer par exemple, ou une résidence hôtelière à vocation sociale, des logements qui sont suroccupés ou alors qui ne présentent pas le caractère de décence, et pour lesquels les gens auront au moins un enfant mineur ou un enfant présentant un handicap. Voilà. Donc, ou les personnes qui sont logées dans un logement non adapté à leur handicap. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, les gens qui sont super prioritaires pour avoir un logement social.
En tout cas, pour Roumlala, si vous avez une liste d'attente, il n'y a pas de question de priorité, enfin, il n'y a pas de dépôt de garantie hein, pour les locataires.
Alors, le dépôt de garantie peut être quand même demandé par le propriétaire pour surtout des réservations de longue durée, on va dire. Mais ça, c'est vraiment plutôt la personne qui gère en direct. Nous, par contre, on conseille bien évidemment de ne pas virer d'argent avant d'arriver dans les lieux, parce qu'il peut y avoir aussi des arnaques. Hein. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc voilà, on essaye de tout bien contrôler avant et effectivement, comme je vous disais, par la modération des messages. Entre autres, mais non, nous, on ne gère pas la partie dépôt de garantie. Par contre, elle peut être demandée effectivement par le propriétaire pour de la longue durée.
Est-ce qu'il y a des types de logements qui sont plus demandés que d'autres et d'ailleurs, quelles sont les tendances actuelles en matière de recherche de logements chez l'habitant?
Alors nous, sur Roumlala, on privilégie vraiment donc les logements, comme vous disiez, donc les chambres chez l'habitant, même si on a encore d'autres types de logements qui sont présents sur notre plateforme, parce qu'avant, on avait aussi la possibilité de déposer des annonces de logements entiers, de colocation, de maisons d'hôtes, etc. Mais là, c'est vraiment ce qui est le plus demandé, ce sont les chambres chez l'habitant. On a aussi pas mal de colocations. Et on a surtout des demandes dans les grandes villes, hein, forcément. Ce qui plaît le plus, de toute façon, et ce qui est toujours le critère principal, c'est vraiment l'aspect économique en numéro un et le côté convivial qui arrive aussi derrière. Donc, ce qui va être le plus recherché, c'est vraiment au niveau du tarif, hein, finalement, en fonction de la ville recherchée. Voilà, on peut indiquer en fait plusieurs critères. Et souvent, voilà, les potentiels locataires vont faire plusieurs demandes avant d'avoir une réponse positive d'un hébergeur. Et voilà.
Est-ce que vous avez des conseils à donner pour quelqu'un qui cherche à louer une chambre pour la première fois sur votre plateforme?
Oui, alors bah, déjà, la première chose, c'est de vraiment bien établir ses critères de recherche, de bien remplir tous les critères, de filtrer les annonces selon les disponibilités, le budget. Il faut aussi bien prendre le temps de lire les descriptions et les avis sur chaque annonce pour se faire une idée, pas avoir de mauvaises surprises, on va dire, sur place. Si par exemple on a besoin de calme, voilà, bien le demander en amont, si c'est pour un séjour où on va étudier, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut peut-être demander aussi en amont. Je pense que la première chose, c'est vraiment d'échanger un maximum et de communiquer avec l'hébergeur. Et aussi pour multiplier ses chances d'obtenir un hébergement, c'est de contacter plusieurs hébergeurs en leur expliquant bien la raison de son séjour, en se présentant. C'est tout simple, ça paraît évident, mais il y a des personnes parfois qui vont faire une demande sans forcément expliquer la raison de leur réservation, et c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre tout de suite en confiance le propriétaire et de lui expliquer vraiment son choix. Et puis aussi, nous, ce qu'on propose, c'est de bien remplir aussi ses propres informations, de mettre une photo. Tout ça, ça va vraiment rassurer aussi le potentiel hébergeur et faire en sorte que la personne derrière puisse accepter et confirmer la réservation.
Ok, très bien. Donc, mettre toutes les chances de son côté, mettre des photos, les informations. Et vous avez dit, donner les raisons de son déplacement. Eh bien, ça tombe bien parce que le morceau qu'on va écouter s'appelle La Razón. Et donc, c'est chanté par Ana Mena. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler. Y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi. Pero sí lo vi. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo, te lo advertí. Y yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé robar de ti? Baby, desde que te vi, supe que iba a doler. Y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé.
Cego y yo no veía las malas intenciones y todo el daño que me harías. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no quería aceptar que tú no eras para mí. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo, te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé de ver de ti? Baby, desde que te
h 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est toujours sur RCN 90.7 et on parle de cette crise du logement. Comment y répondre? Quelles sont les solutions? Quelles sont les associations, les entreprises qui proposent de pallier à ces problèmes-là? Et on vient d'écouter le morceau d'Ana Mena, La Razón, parce qu'on parlait des raisons qui vont pousser quelqu'un à accepter notre demande pour être logé sur une longue, courte et ou moyenne période. Alors, on parle de Roomlala avec Lou Di Pellino qui est brand manager. Aujourd'hui, votre plateforme compte à peu près 2 millions de membres dans 50 pays. Est-ce qu'il y a des marchés principaux où vous souhaitez vous développer et comment vous avez d'ailleurs développé votre présence à l'international?
Oui, alors donc déjà pour répondre à la première question, donc notre marché c'est surtout déjà donc les étudiants, comme je disais, les déplacements professionnels, et pour ce qui est de notre présence à l'international, dans un premier temps, donc parce qu'on est disponible et on a créé la plateforme depuis 2009, on avait surtout des locataires étrangers qui réservaient sur des logements en France. Et petit à petit, on a développé notre offre locale, notamment dans les pays francophones. Et en fait, on a aussi choisi de changer notre nom pour justement s'internationaliser, parce que à la base, on s'appelait chambrealouer.com en 2009. Mmh. Et on a changé pour Roomlala donc en 2016, pour que ce soit aussi plus parlant pour un plus grand nombre de personnes, et que ce soit justement Room en anglais, pour que ça parle à tout le monde. Et voilà, on a aussi fait des levées de fonds pour pouvoir mettre du budget pour aller chercher d'autres marchés, effectivement. Et donc maintenant, on est présent dans plusieurs pays et on a beaucoup aussi de demandes qui viennent donc du Canada, de la Belgique, de l'Espagne, l'Italie, enfin voilà, c'est assez assez varié, mais c'est vrai que notre offre principale reste quand même dans les pays francophones, tout en se développant petit à petit.
Est-ce qu'il y a des évolutions majeures que vous avez observées dans le domaine de la location de chambres chez l'habitant?
Oui, alors on a remarqué une très forte progression des séjours de 3 mois. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que les étudiants avant partaient pour 1 an ou plus. Aujourd'hui, c'est plutôt quand même des déplacements de moyenne et de plus courte durée, donc pour des trimestres. Donc là, c'est surtout ça qu'on a vu qui a bien évolué depuis nos débuts. Avant, on était vraiment sur des séjours encore plus longs. Et maintenant, on est sur une moyenne plutôt de 3 mois.
Sylvie Le Botmel, si j'ai mon propriétaire qui refuse de faire les réparations nécessaires dans mon logement, est-ce qu'il y a des recours pour moi? Alors, question des auditeurs, je précise.
Oui. Alors, en fait, le propriétaire, il est tenu au titre de la loi de 89 de faire les réparations autres que les réparations locatives. Et il est également tenu d'assurer la jouissance paisible du logement et surtout aussi de délivrer un logement décent. Et un logement décent, c'est un logement qui doit être décent énergétiquement parlant. Aujourd'hui. Et c'est également un logement qui doit respecter les caractéristiques du logement décent qui sont énumérées dans un décret. Donc ça veut dire que si le propriétaire ne respecte pas son obligation, le locataire, après l'avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, va pouvoir donc saisir Istologe, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, les personnes vont être renvoyées auprès de nous parce qu'on va pouvoir les renseigner sur notamment la commission de conciliation qui est la CDC, des rapports locatifs, et pour que les gens éventuellement, si vous voulez, s'arrangent à l'amiable devant cette commission. Mais s'il n'y a pas d'arrangement amiable, l'étape suivante, ça sera la saisine du juge si une des parties décide d'aller devant le tribunal. Donc là, en l'occurrence, le locataire.
Dans cette émission, c'est vrai qu'on s'attarde vraiment sur le cas des personnes qui n'ont pas forcément les moyens pour se loger comme il et elle le souhaitent. Ce sont des personnes aussi, parfois, qui ont besoin d'accompagnement. Est-ce que on peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé à la DIL pour surmonter les difficultés de logement?
Alors, on va renseigner les gens, si vous voulez. On va leur expliquer la procédure en fonction de l'état de la dette et effectivement savoir si on est en début de constitution d'impayé, en cours de procédure ou en fin de procédure. Après, il y a les travailleurs sociaux dans le cadre des MDS qui sont censés, si vous voulez, aider les gens, notamment à faire une demande de DALO, notamment quand il y a un jugement d'expulsion qui est rendu. Parce que la demande de DALO, par exemple, pour les gens qui sont en situation d'impayé et d'expulsion, c'est à partir du moment où le jugement d'expulsion a été rendu. Et pas avant, à ce titre-là. Donc, il y a les travailleurs sociaux. Et après, si vous voulez, il y a aussi réalisation d'un diagnostic social et financier. Quand, par exemple, un locataire est en situation d'impayé, s'il n'arrive pas à s'arranger à l'amiable avec le bailleur pour lui prouver qu'il va réussir à payer, le bailleur pourra faire appel à un commissaire de justice qui est, avant on appelait le commissaire de justice un huissier. Et à ce moment-là, le commissaire de justice va signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Cette clause résolutoire, elle est insérée dans les baux. Et à partir de là, il va y avoir réalisation d'un diagnostic social et financier qui va être réalisé. Et le juge, par exemple, au stade de la résiliation du bail, aura toutes les infos pour savoir effectivement, si vous voulez, pour bien connaître la situation de la personne qui est en situation, si vous voulez, donc d'impayé.
Et vous, quel type de soutien juridique, fiscal, financier, vous apportez aux personnes
alors,
qui cherchent?
Alors, nous, on donne des renseignements d'ordre juridique, fiscal et financier sur le logement. Ouais. Donc, les renseignements juridiques, ça va, par exemple, concerner la location, la copropriété, les servitudes, l'urbanisme. Ça va être également les renseignements fiscaux par rapport à la taxe foncière, par rapport aux revenus fonciers, par rapport aux investissements locatifs. Et puis, ça va être également des renseignements financiers sur tout ce qui est amélioration de l'habitat. Et on fait également des plans de financement à titre indicatif pour les gens qui auraient la possibilité, si vous voulez, de pouvoir acheter.
Alors, bon, j'imagine que vous n'avez pas encore tous les chiffres sur l'année en cours, hein, 2024.
Sur 2023.
Les chiffres de 2023. Combien à peu près de consultations en Meurthe-et-Moselle avez-vous réalisé?
Alors, j'ai pas la totalité pour toutes les consultations. Par contre, en 2023, on a fait 339 consultations relatives aux expulsions. Mmh. Et en fait, sur ces 339 consultations, il y a eu 750 questions qui ont été posées sur les impayés. Parce que vous pensez bien que quand on renseigne sur l'expulsion, on va dérouler la procédure, les démarches, l'apurement de la dette, la présence à l'audience, etc. Donc en fait, on a renseigné 25% par rapport à tout ce qui est information procédure, donc sur ces 339, 15% sur des démarches amiables, 18% sur l'apurement de la dette, 6% par rapport à la présence à l'audience de la personne concernée, 13% par rapport à l'action judiciaire, 10% au sujet de la vérification de la dette, 5% par rapport au relogement et 8% par rapport à d'autres questions. Mmh. Et en fait, il faut savoir que dans nos consultations 2023, les principales thématiques, en premier, on va dire, c'est la location. Deuxième thématique, rénovation. Troisième thématique, habitat indigne et habitat non décent. Quatrième thématique à égalité, la copropriété et tout ce qui est acquisition, vente. Mmh. Cinquième thématique à égalité également, voisinage et impayés. Et on se rend compte que les impayés sont en augmentation.
Alors, à titre comparatif, à cette période de l'année, quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a plus de consultations cette année par rapport à l'année dernière ou
Non, moi je dirais que c'est la même chose, si vous voulez. On n'a pas vu la différence, en fait.
Alors, je pose la question parce que vous n'êtes pas sans savoir, hein, avec le contexte actuel, la préparation des Jeux Olympiques, on peut s'attendre peut-être à une recrudescence des difficultés ou des demandes. Bon, peut-être pas forcément directement ici dans notre ville, mais je regarde des villes comme Paris et là je me tourne vers Lou. Est-ce que ces Jeux Olympiques-là offrent une menace, des opportunités pour les hébergeurs de Roumlala?
Alors oui, donc là ça va être vraiment une opportunité, hein, des opportunités, parce que on a vraiment beaucoup plus de demandes à ces périodes-là. On se rend compte aussi que par rapport à d'autres plateformes où les tarifs ont vraiment explosé dans cette période, nous on a vraiment des hébergeurs qui certes cherchent à avoir un complément de revenus, mais qui n'ont pas gonflé leurs prix et leurs tarifs de manière vraiment on va dire astronomique. Donc ils vont quand même pouvoir rentabiliser leurs chambres vides. Et pour les locataires, c'est aussi l'opportunité de trouver un logement qui soit plus abordable par rapport à, voilà, comme je disais, les solutions qui ont été présentées là, comme les hôtels ou les logements entiers qui ont vraiment doublé, triplé, voire quadruplé leurs prix pendant ces périodes. Nous, on avait fait aussi un comparatif avec les prix qui avaient été constatés sur les autres plateformes et c'était affolant, hein, vraiment. Donc voilà, nous, c'était vraiment la solution qui était la plus économique. Donc forcément plus de demandes, donc plus de réservations, et donc les propriétaires sur notre plateforme sont très très contents. Et puis aussi c'est l'occasion de faire des rencontres avec des voyageurs venant du monde entier, on va dire. Donc ça peut être aussi de belles rencontres et de beaux échanges culturels.
Et quels sont vos principaux défis, les défis à relever dans le contexte actuel du marché immobilier, dans le contexte de la location?
Alors pour nous, les principaux défis, c'est vraiment de faire connaître notre plateforme pour pouvoir multiplier les annonces sur notre site. Actuellement, on est en manque d'annonces. On pense qu'il peut y avoir encore beaucoup, beaucoup plus d'annonces sur notre plateforme, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont chez elles justement une chambre vide à exploiter, voire plusieurs. Donc l'idée, c'est de nous faire connaître un maximum. On essaie aussi de démarcher les personnalités politiques en faisant du lobbying pour les convaincre de mettre en place des incitations fiscales pour que les propriétaires aussi soient plus intéressés à mettre en location ces chambres vides. Et aussi avoir un contrat dédié en fait à la chambre chez l'habitant pour les baux qui vont être inférieurs à 9 mois. Aussi, voilà, on sait qu'en 2024, la France, elle est toujours aussi touchée par la crise du logement. Voilà, toutes ces interventions le montrent bien évidemment. En plus, comme on a vu, voilà, le budget, le logement, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément et qui pèse beaucoup. Donc voilà, on a des communes qui sont en tension et qui sont de plus en plus nombreuses. Donc nous, on essaye de notre côté de proposer une solution qui va être innovante et efficace, parce qu'on va optimiser des ressources existantes et offrir une option de logement qui va être plus abordable pour les locataires, qu'ils soient travailleurs, sans emploi, étudiants ou retraités. Et voilà. Donc vraiment le principal défi, c'est ça, c'est d'accroître notre notoriété pour que les gens aient le réflexe d'aller sur Roomlala plutôt que sur d'autres plateformes. Et voilà, qu'ils aient cette volonté aussi d'utiliser des ressources existantes plutôt que voilà, on a entendu beaucoup la construction, par exemple. Mais construire, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Donc pourquoi pas exploiter déjà ce qui est existant. Ce qui est à notre portée, en fait, tout simplement.
Vos propos rejoignent ceux dans le début d'émission de Jean-Pierre Dubois Beau, qui disait sur l'existant, il faut se saisir aussi des forces politiques, il faut aller les secouer un peu pour qu'il et elle d'ailleurs incitent les propriétaires à voilà, trouver des solutions pour ne pas que les logements restent vacants.
Mais tout à fait, c'est quand même dommage de se dire qu'il y a autant de logements qui sont vacants en France et qu'on ne les exploite pas, sachant que voilà, derrière, on a plein de personnes qui sont en demande et qui sont en difficulté. Donc c'est assez paradoxal. Et voilà, nous, on essaye justement aussi, à travers ces démarchages, de personnalités politiques, de leur ouvrir un peu les yeux sur ces solutions qui sont finalement à notre portée et qui ne sont pas encore exploitées à 100%.
Alors, avant de terminer cette émission, Sylvie, on va se projeter un peu. Est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce qu'il y a des projets avec la DIL que vous prévoyez de mettre en place dans les prochains mois, admettons, pour améliorer l'accès au logement et surtout la prévention des expulsions dans la région? On sait qu'il y a eu la fameuse loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Déjà, est-ce que ça a eu un impact? Et ensuite, voilà, je vous laisse...
L'impact, nous, à la DIL, on l'a pas vu directement. Hein. Mais les actions, par exemple, ça va... On fait des matinales régulièrement avec des travailleurs sociaux. On fait des réunions d'infos qui sont plutôt destinées aux bailleurs, justement pour expliquer la vie du bail, les garanties, parce que quand il y a des impayés aussi, le bailleur, il peut avoir des garanties et il peut à ce moment-là choisir soit de faire jouer la clause résolutoire du bail en vue de résilier le bail, ou alors il peut déjà en premier lieu se retourner par exemple contre la caution, contre une personne qui s'est portée caution, si une personne s'est portée caution. Il y a un dispositif également qui s'appelle VISAL et qui concerne principalement les salariés du secteur privé qui ne sont pas en CDI ou qui ont des revenus qui ne sont pas supérieurs à 1 500 € ou qui concernent les jeunes de moins de 30 ans et peu importe à ce moment-là leur statut. Alors, nous, en fait, notre but, c'est vraiment de renseigner les gens, de donner des renseignements, un conseil juridique neutre et gratuit. Et à partir de là, renvoyer effectivement les gens auprès des différents organismes où ils pourront obtenir éventuellement donc de l'aide, si aide il y a, ou alors leur dire, bah écoutez, votre situation, elle est pas facile, et la seule solution, ça va être par exemple de saisir la commission de surendettement et d'expliquer aux gens, si vous voulez, l'impact de la procédure de surendettement par rapport, si vous voulez, à l'expulsion.
Alors, pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui sont en difficulté, en situation de mal logement aujourd'hui ?
Quels conseils je donnerais ? Je dirais qu'ils doivent impérativement, si vous voulez, se renseigner, et surtout, ils ne doivent pas jouer à la politique de l'autruche. Il faut absolument, si vous voulez, que quand ils sont en situation de mal logement, notamment quand leur logement n'est pas décent, comme le bailleur aujourd'hui est tenu de remettre un logement décent, c'est au bailleur de remédier à la non-décence du logement, à charge pour lui, s'il estime que c'est le locataire qui est à l'origine de cette non-décence, de le prouver. Et à partir de là, il n'y aura pas d'obligation, si le logement n'est pas décent, il n'y aura pas d'obligation du bailleur de reloger la personne, à la différence d'une procédure d'insalubrité ou de mise en sécurité, où là, si vous voulez, c'est une procédure de police. Et là, le bailleur est tenu d'offrir soit un hébergement, soit un relogement.
Alors, comment on peut vous contacter ? Comment on peut vous joindre ?
Alors, l'ADIL est 48 rue du Sergent Blandon, c'est Esplanade Jacques Baudeau. Et à partir de là, vous pouvez nous contacter par téléphone, donc au 03 83 27 62 72. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse contact@adil54-655.fr. Et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour une consultation physique sur le site de l'ADIL 5455 pour une consultation à Nancy. Et il faut savoir qu'on assure des permanences dans tout le département de la Meurthe-et-Moselle et dans le département de la Meuse.
Très bien. Ouais. Et enfin, Lou, quel conseil vous donneriez aux personnes aujourd'hui qui ont du mal à se loger ? Je pense aux étudiants, aux saisonniers, par exemple.
Alors, comme je disais un petit peu au début de l'émission, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'avoir vraiment soi-même bien rodé son profil et aussi sa recherche, c'est-à-dire bien établi des critères définis. Et puis après, vraiment, aller regarder tout ce qui se fait sur notre site, donc roomlala.com, regarder un petit peu les annonces. La chose la plus importante, c'est vraiment de faire plusieurs demandes de réservation, parce qu'on peut avoir parfois des hébergeurs qui vont être très réactifs et d'autres qui vont mettre du temps à répondre ou bien qui n'ont pas mis à jour leur calendrier récemment. Donc, même si on les incite à le faire régulièrement, c'est vrai que ça peut arriver. Du coup, nous, vraiment, le premier conseil qu'on donne, c'est de multiplier les demandes de réservation. C'est vraiment hyper important, ne pas juste faire un envoi, un seul message et puis se dire que ce sera la bonne location. Mmh. Et puis, vraiment, échanger un maximum avec l'hébergeur en amont, prévoir peut-être une visite pour être sûr que le lieu soit convenable et corresponde aux attentes. Et puis, sinon, nous, on donne plein de conseils aussi sur nos réseaux sociaux que vous pouvez aller suivre et que je gère, justement. Mmh. Donc, on est présent sur Instagram, Facebook et TikTok, notamment, LinkedIn également. Donc vous tapez Roomlala et en général vous nous trouverez très rapidement et on essaye de donner le maximum de conseils, de bons plans et peut-être aussi un petit peu de messages plus légers, humoristiques pour que les étudiants et les locataires en général se retrouvent un petit peu dans tout ça et que ça leur donne un petit peu le sourire.
Très bien, voilà. Merci beaucoup. Lou Di Pellino, je rappelle que vous êtes brand manager chez Roomlala. Merci beaucoup Sylvie Le Botmel, conseillère juriste pour la deal 54 et 55. Et puis nous, on va se quitter en musique avec un morceau évocateur du sujet d'aujourd'hui. C'est Come Home d'Anderson .Paak avec André 3000.
on to anymore. Untie me, let me loose from the cord. I'm so gone, so far. I deserve more.
Harmony, bumblebee, hummingbird. I'm a nerd. Study you. What do you? WWF. We fighting. We might need counseling. Possibly more so. Me sounds to me. Frowns will be grounds to leave. Hounds will be looking for you before you drop a tear. I pray them stop pretending that I ain't him. I ain't them. Them some dumpling. I remember when you start dying them silver hairs and start hiding from your age. I ask why I come. Amazing how time can run away from us. I'm no nun. You're no priest, but I promise, hun, you gon' see a phenomenon. Come with me like it's Ramadan. I don't eat like it's Comic-Con. I'm a freak for you. Yeah. I'm begging now, pretty please, with cherries on top. Harry with Harriet Tubman, don't give up. And if your gut tells you to strut, then I'll hail you a car, but what man won't beg? You know I'm nutmeg, I will show up on a little moped with a little puppet. It'll be fluffy, we will untuff and we can discuss it. You know I'm suffering, I don't miss my friend, I don't like my fan. Bent up, telecom, well, that's illiform, sweet stuff, willowong. We stuck, billabong, leaks that minimum. We gon' get along, peace and intercom, Jesus, been along. T-I-M-E, I'm please, I'm feeling dumb, please, I'm feeling dumb, please, I'm feeling dumb.